Personne ne pense qu'un handicapé peut avoir une vie sexuelle, qu'il peut avoir un clitoris qui lui fasse du bien de temps en temps, qu'on le caresse. Personne ne veut nous voir comme des personnes en entier. Personne.
Nous avions d'ailleurs commencé la semaine avec vous, Anne, et terminé l'émission de lundi en promettant de consacrer du temps cette semaine à l'organe du clitoris et à sa méconnaissance. Eh bien, il faudra attendre une semaine jouissance ou une semaine plaisir ou une semaine sexualité, car la riche série que nous concluons aujourd'hui ne nous en a pas laissé la possibilité. Écoutez plutôt. Lundi, nous évoquions le manque de transmission concernant l'accouchement, les règles, les maladies gynéco ou encore la maternité. Mardi, nous écoutions Bouchra Wisgen et deux des interprètes de son impressionnant de création Corbeau. Mercredi, deux chercheurs faisaient plus de jours et de nuances autour du phénomène appelé Pro-Ana sur Internet et qui rassemble des malades atteintes de troubles alimentaires. Et hier, jeudi, nous tentions une sorte d'inventaire raisonné des arguments avancés dans les débats autour de la prostitution. Réécoutez Parler le corps des femmes sur franceculture.fr. Il est 14h passées de 1 minute, c'est vendredi. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Depuis l'enfance, Diane Le Riche se sent femme, mais il lui a fallu attendre l'âge de 42 ans pour débuter un traitement hormonal et faire progressivement correspondre son identité de genre avec son corps. Pour l'instant, on lui refuse en France la vaginoplastie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir pu se redécouvrir plus librement et épanouie sexuellement dans son corps actuel. On l'écoute nous raconter vers 14h50. Cinquième et dernier temps de ce chantier thématique autour du corps des femmes, des corps des femmes. Comme chaque vendredi, nous demandons à quelqu'un de décliner notre sujet en plusieurs extraits de films selon sa sensibilité cinématographique. Et c'est à vous, Hélène Flékinger, que nous avons confié ce choix. Votre thèse soutenue il y a 5 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. À peu près. Portait sur les relations entre le féminisme, le cinéma et la vidéo. C'est donc l'orientation de votre sélection aujourd'hui qui s'axe autour de la libération du corps et de la réappropriation de leur sexualité par les femmes dans les années 70. Bonjour, merci beaucoup d'être là.
Bonjour, c'est avec plaisir.
Et d'ailleurs, puisqu'on n'a pas trop débattu le titre de cette série que nous avions appelée « Le corps des femmes », et puis un ou plusieurs auditeurs ont envoyé des messages en disant peut-être « Les corps des femmes », qu'est-ce qui, au regard du programme que je viens d'égrener, vous paraîtrait le plus juste ?
Oh, les corps des femmes, c'est très bien, mais déjà, vous avez mis la notion même de femme au pluriel.
Exactement.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, vous avez évité l'écueil de la femme et de cette idée qu'il pourrait exister une nature féminine. Au moins, vous avez mis le pluriel là, ce qui est d'ailleurs un héritage, pour le coup, du mouvement de libération des femmes qui a bien mis en évidence que la femme n'existe pas. Évidemment, il n'existe que des femmes, des êtres de chair et de sang. Donc, les corps, oui, mais...
L'essentiel, c'était de mettre un S à femme.
Absolument.
C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, on avait déjà un des pluriels à notre avantage. Vous avez d'ailleurs travaillé pendant cette thèse sur l'articulation donc, entre ces mouvements féminismes, dont vous allez nous dire plusieurs choses, j'imagine, mais aussi l'outil cinéma. L'outil vidéo, l'outil cinéma, c'est un outil très important dans cette période-là.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au moment où se joue l'enjeu, disons, de la réappropriation de leur corps, de leur sexualité, de leur parole par les femmes, évidemment... L'outil cinématographique et plus encore spécifiquement l'outil vidéo, ces nouvelles techniques légères qui émergent en France à la fin des années 60 et qui sont surtout appropriées donc dans les années 70, deviennent un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se réapproprier son corps et sa sexualité, il faut aussi se réapproprier ses images et ne pas se laisser enfermer par un modèle patriarcal, un modèle machiste, enfermant. Voilà, aussi bien au niveau des images d'ailleurs que des paroles, puisque la question de la parole va être absolument décisive aussi.
Parce qu'évidemment, nombre de cartes blanches cinématographiques auraient pu, comme à chaque fois, mais peut-être plus encore aujourd'hui, être imaginées autour de la notion du corps des femmes à l'écran au cinéma. Et on aurait pu tout à fait, j'imagine, avoir une carte blanche cinéma quasiment à l'opposé des films que vous allez nous faire entendre aujourd'hui en termes d'image de la femme à l'écran.
Absolument. Des femmes même, peut-être, Maria.
Et des femmes.
En l'occurrence. Mais oui, là, on va prendre avec les extraits qui vont être entendus, le contre-pied, évidemment, d'une image, là encore, mythifiante, enfermante, des femmes.
Quand on a découvert votre liste, il y avait quelques films, quelques rares films qui nous parlaient. Les autres nous étaient un peu plus inconnus. Est-ce que c'est simplement un manque de culture cinématographique ou est-ce que c'est la réalité de la connaissance de ces films-là ?
les corpus de films féministes ont été très très souvent occultés finalement, déjà dans l'histoire, on va dire, du cinéma, et ils ont été pendant très longtemps aussi absents des institutions dites patrimoniales, il faudrait dire justement aussi matrimoniales, en tout cas là on voit bien l'importance, la suprématie masculine dans le terme même d'ailleurs d'institution patrimoniale. Et effectivement, dans le cas de ma thèse, il a fallu que je fasse un gros travail de collecte, de repérage. Et finalement, ces films féministes, si vous ne les connaissez pas pour la plupart, c'est précisément parce qu'ils étaient en partie encore dans les caves, les greniers des militantes qui les avaient tournés. Et même des cinéastes comme Agnès Varda, leurs films, je dirais, de féministe de manière peut-être plus frontale ou de manière plus manifestement frontale, eh bien n'étaient pas forcément non plus les plus connues. Donc y compris chez les femmes cinéastes elles-mêmes connues et reconnues, leur implication dans le mouvement de libération des femmes n'était pas forcément très très mise en avant.
Alors comment vous en avez eu connaissance? Parce que bon, on imagine avec une réalisatrice comme Agnès Varda, et puis on va en parler à deux reprises parce qu'il y a deux extraits de son cinéma. Voilà, vous allez la voir, bon, et puis vous avez connaissance de ces films-là, mais pour des films qui sont encore plus discrets, encore plus méconnus, comment vous arrivez jusqu'à eux?
Alors il y a eu un vrai travail d'enquête évidemment qu'il a fallu mener, et le principe est celui en quelque sorte du travail donc d'enquête avec les fils qu'on tire, c'est-à-dire qu'à un moment, en archive, on retrouve une trace d'un film qui a été vu par des militantes qui en parlent, par exemple dans des revues féministes, dans des journaux féministes. Donc il a fallu évidemment éplucher, dépouiller, comme on dit, et la presse féministe et la presse cinématographique. Mais dans la presse cinématographique, on ne trouvait pas grand-chose. Et puis, il y a quand même, heureusement, quelques outils qui ont été très utiles. Un numéro, en l'occurrence, d'une revue qui s'appelle Cinémaction, qui s'appelait Le cinéma au féminisme, et qui avait été édité en 1979. Et là, il y avait une grande liste de films. Mais simplement, après, il fallait retrouver aussi qui avait réalisé tel ou tel film militant. Parce que quand une vidéo féministe, par exemple, est présentée comme ayant été réalisée par le collectif du lézard et de la guerrière pamplemousse, eh ben, il faut savoir qui était derrière. Donc il faut enquêter.
Nous, on lutte pas pour les bonnes femmes qui ont du fric et qui vont se faire avorter.
Non, bah ça
ailleurs, hein. On en a rien à foutre, de toute façon, elles continueront à se faire avorter. Mais les autres, elles ont pas de fric. Et,
je sais pas.
Il y en a marre, vraiment marre. Parce que tous les mecs qui ricanent... En fait, une des principales batailles de l'élève, c'est ça. C'est l'avortement. Et tous les mecs qui ricanent, moi j'ai vraiment envie de leur foutre mon poing dans la gueule. Tu comprends? Tous ces petits cons qui sont là, qui viennent... Non, c'est pas une question de ça. Quand j'aurai appris à me battre, je le ferai. Vraiment.
Bah, je suis franchement
ils n'ont pas
à
être contre regarde. L'avortement. Ils n'ont pas à être contre l'avortement, les mecs. J'ai pas envie de me battre. J'ai aucune envie de me battre contre des mecs, mais j'ai vraiment envie de me battre contre les mecs qui sont contre l'avortement. Parce qu'ils viennent nous baiser, puis après ils se barrent en disant de merde-toi.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour votre mouvement?
Ce qu'il faut faire d'abord, c'est à vous de décider, puisque vous êtes une femme, c'est à vous d'abord de réfléchir sur ce qu'on vous a appris, sur ce que vous étiez. C'est-à-dire, quand vous êtes petite, on vous dit bah, tu dois faire la vaisselle, le ménage, etc. On vous file des poupées, des petites dinettes, des petites épiceries. On vous dit c'est ça que tu dois faire quand tu seras grande. Et puis, les bonnes femmes, elles font pas autre chose. Mais non, ce n'est pas un instinct. Merde, moi, j'ai pas envie de faire ça, ça m'emmerde le ménage. Ça emmerde tout le monde.
Parce que vous avez des exceptions toujours.
Mais non, personne n'aime faire le ménage. Personne n'aime faire ça.
Alors, hein? Qu'est-ce que vous aimez faire?
Ce que j'aime faire, j'aime travailler, faire des études, faire rechercher n'importe quoi. J'aimerais faire de la recherche biologique, j'ai pas pu.
Vivre en amour.
J'aime vivre aussi.
J'ai pas envie de faire le ménage.
Hein. Elles parlent que quand elles sont à poil et qu'elles montent leur cul, les femmes. Elles disent acheter Dior, acheter. Acheter femme fraîche, ouais, acheter autre chose. Mais on est des pondeuses et des consommatrices. Vous ne sentez pas ça?
Non, mais j'ai pas posé de problème encore.
Vous travaillez pas?
Non.
Ben voilà. Ça vous aurait peut-être plus de travailler dans votre vie et de faire quelque chose qui vous plaisait, plutôt que d'élever des gosses et faire la bouffe pour votre mari. C'est vrai ou c'est...
Humilier les femmes, acheter, vendre, violer, quand on meurt.
Elle en revient pour ce premier choix de cette carte blanche cinématographique autour du corps des femmes sur ce célèbre chant qu'on entend alors manifestement pour la première fois au cinéma. Comment s'appelle le film que vous choisissez pour commencer ?
Alors c'est un film qui s'appelle Le Ghetto Expérimental, qui a été réalisé entre 1971 et 1974 par Jean-Michel Carré et Adam Schmedes. C'est un film qui porte sur la vie de l'université de Vincennes, donc dans une perspective révolutionnaire. Et dans le film, il y a toute une série de petites auto-présentations de groupes militants qui sont en place à l'université de Vincennes. Et parmi eux, un groupe du mouvement de libération des femmes, puisqu'il faut d'ailleurs savoir que c'est à l'université de Vincennes que va se tenir finalement la première réunion non mixte, le 21 mai 1970. Et donc là, dans cet extrait, on est dans le square d'Issy-les-Moulineaux le 28 mars 1971. Un rassemblement a été organisé en hommage aux femmes de la commune, donc 100 ans après donc, la commune de Paris. Donc c'est un hommage et c'est en leur mémoire. Et là, on entend une certaine Mafra qui discute avec une passante. Et là, on voit déjà décliner tous les grands thèmes du mouvement de libération des femmes qui vont eux-mêmes se déployer en termes d'analyse et de pratique tout au long de la décennie. Bien sûr, l'avortement, la contraception, mais aussi la question du travail ménager, et tout simplement le fait d'être femme dans ce contexte. Et la question des désirs. Et ensuite, effectivement, l'hymne des femmes, donc sur le chant des marais, c'est ça évidemment, la musique qui est reprise. Et c'est la première fois donc qu'elle est dite publiquement. Et ça reste depuis, évidemment, un hymne majeur.
Et c'est aussi, par conséquent, son premier enregistrement. Et on disait tout à l'heure la force aussi de la manière dont s'empare le mouvement ou les mouvements féministes du cinéma ou de la vidéo. Ça permet aussi d'en garder une mémoire. Alors même si vous précisiez combien, est-ce que c'était une mémoire qui a été pas toujours très simple à exhumer, en tout cas, elle existe. Et c'est extrêmement important qu'elle existe et qu'on puisse comme ça la reconvoquer. En même temps, on commence une carte blanche cinéma sur le corps des femmes par finalement surtout entendre une femme parler. C'est ce qui est très intéressant, et deux femmes parler. Ce qui est très intéressant, c'est que le premier extrait, finalement, est un extrait de parole. Alors bon, à l'image et à leur corps, à ces deux femmes, hein, mais ce sont vraiment deux argumentations qui s'affrontent, en tout cas se rencontrent, celle d'une femme convaincue par son combat et celle d'une autre qui dit clairement, ben moi je ne me suis pas encore posé la question. C'est assez intéressant cette mise en scène.
Oui, tout à fait. Et là, on voit bien la nature, entre guillemets, enfin la spécificité, disons, du nouveau féminisme qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que là, la situation des femmes est désormais vraiment analysée en termes d'oppression spécifique et de libération. Et effectivement, ça ne se fait pas évidemment sans contradiction et sans conflit au sein même de la société.
La première fois qu'on a eu des rapports, bon, bah ça s'est passé comme avec mon mari, j'ai rien eu. Bon, alors sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré. Enfin, j'étais vraiment, il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Il avait 20 ans, il savait. Ah, oh, mais c'est pas vrai, Marie-Thérèse, je savais pas. Et alors, à partir. Non, mais à partir de ce moment-là, et là, c'est pour ça que je l'aime, lui, personnellement, et que je, quand même, je ne peux pas lui en vouloir maintenant, c'est le gars qui, au début, est resté 3 heures sur moi jusqu'à ce que moi je jouisse. M'a câliné, m'a caressé, a été câlin toute la journée, est venu m'embrasser sans arrêt, et est resté pratiquement 3 heures à avoir un rapport avec moi, en se retenant, en s'arrêtant. Jusqu'à ce que je jouisse.
Sérieux.
Jusqu'à ce que. Non, mais c'est vrai, jusqu'à ce que je jouisse. Bon, maintenant, il me faut 3 quarts d'heure. Ou parfois, il me faut une demi-heure. Ben, il n'y a pas beaucoup de gars qui attendent une demi-heure. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, il jouit en même temps que moi. Il attend pour jouir en même temps
donc
que moi.
Donc le plaisir est encore.
Et encore au plus. Et c'est pour ça que je tiens d'autant plus à lui. Et que je me rends compte qu'en gardant ce monde, c'est pas le garder. Je sais particulièrement que quand j'ai fait ce gosse. C'était mon 14e jour, j'avais mal là, je savais, et pourtant j'ai bien lavé.
Donc tu vois bien qu'il y a des femmes qui sont très différentes les unes des autres, qui agissent très différemment vis-à-vis de la sexualité, et qui n'ont pas du tout le même genre de rapport avec l'homme, tu vois, il y en a qui c'est beaucoup plus tranquille, tu vois, l'homme il éjacule qu'une fois et puis c'est fini, après il s'endorme, il y en a d'autres, ça se va être 3 ou 4 fois dans la nuit, ou 3 ou 4 fois au cours des rapports, alors tu comprends qu'il faut adapter le moyen contraceptif à son corps et à sa vie sexuelle, tu vois. C'est pour ça que dans un petit manuel là qu'on a fait, oui, nous avortons, on disait La jeune fille de 13 ou 14 ans, tu vois, qui a des rapports très espacés avec des partenaires différents, qui se passent dans n'importe quel endroit, dans un appartement, dans la nature, il faut qu'elle ait un moyen contraceptif qui soit, tu vois, instantané. Donc disons, il n'y a que la pilule à ce moment-là qui va. Mais la femme qui est mariée, qui a un homme qui rentre à la maison à heure fixe, et qui même, il y a beaucoup de couples qui font comme ça, qui réservent par exemple 2 jours par semaine pour avoir des rapports parce que c'est le jour où ils rentrent tous les deux pas fatigués, où ils se voient un peu plus longtemps dans l'après-midi, dans la soirée, où ils ont le temps vraiment d'avoir des rapports sexuels intéressants, tu vois. Bon, eh bien alors cela, mais pourquoi pas le diaphragme, puisque la femme, elle peut prévoir et le mettre à l'avance, tu vois. Donc il faut adapter la contraception à sa sexualité qui naturellement évolue tout au cours de la vie d'une femme. Il est bien certain que la femme de 60 ans, elle aura une vie sexuelle bien différente de la petite gamine qui court dans les prés, hein. Bon, eh bien, ça, il faut que la femme, tu vois, consciente, tu vois, libre de choisir, elle adapte la contraception à son corps. Et c'est pour ça que je te dis que toi, maintenant que je vois que premier échec du diaphragme, tu l'avais mal mis, deuxième échec du diaphragme, tu l'as pas mis parce que tu voulais peut-être l'enfant, enfin bon, des tas de problèmes, je dis, c'est des échecs au diaphragme qui, à mon avis, moi, me font dire qu'il faudrait que tu changes de moyens contraceptifs. Alors c'est pour ça que je pense qu'on pourrait peut-être même en discuter.
Ah oui, c'est certain.
Avant l'avortement.
En étant au tout début des années 1970, Hélène Fleckinger, c'est le deuxième choix de cette carte blanche signée sur le corps des femmes. Y'a qu'à pas baiser, c'est le titre de ce film de Carole Rossopoulos. On entend ici encore une fois une discussion entre deux femmes. On est au tout début, vraiment au tout début des années 70, cette discussion extrêmement libre sur le corps des femmes et des hommes d'ailleurs, et sur leur rapport à la sexualité. Pourquoi ce choix-là ?
Alors, cet extrait m'intéresse à plusieurs égards. Déjà, il me permet d'expliquer justement pourquoi la vidéo a été appropriée par les féministes dans les années 70. Là, c'est une vidéo qui est tournée par Carole Rossopoulos, qui est une pionnière de la vidéo légère en France, féministe, et qui, là, finalement, filme de l'intérieur le mouvement de libération des femmes. Le film dont on a entendu un extrait tout à l'heure était filmé par un homme, militant certes.
Le premier.
Le premier, pardon, le ghetto expérimental dont on a parlé juste avant, avait été tourné par un homme. Là, c'est vraiment tourné par une femme, donc de l'intérieur même du mouvement. On est dans une démarche politique d'autoreprésentation finalement qui est en train d'être déployée, qui répond au principe d'auto-émancipation prôné par le MLF. Et là, les images et les sons qui sont produits en vidéo appartiennent véritablement aux femmes. Et là, cet extrait me semble particulièrement intéressant aussi parce que la parole est extrêmement libre de manière générale dans ces années-là. Les films féministes reproduisent des paroles de femmes, notamment autour de la sexualité, qui sont absolument étonnantes en fait aujourd'hui. Voilà. Et par rapport au contexte, là, donc on est en 1971, les images du film sont majoritairement tournées donc après la parution du manifeste dit des 343 salopes, mais ça c'était le terme qui avait été employé par Charlie Hebdo, c'est en fait l'appel des 343 femmes qui étaient parues en avril 71 dans le Nouvel Observateur, pardon, et qui dénonçait la situation à laquelle les femmes étaient contraintes dans un contexte où l'avortement était illégal, parce que c'est ça qu'il faut repréciser. Et donc là, c'est juste avant une pratique illégale d'avortement assurée par une femme qui appartient au groupe Information Santé, et on voit bien qu'il y a une discussion vraiment qui précède cet acte, et l'ensemble de la vidéo de Carole Rossopoulos par ailleurs reproduit dans la durée cette pratique d'avortement pratiquée selon la méthode par aspiration Karman, et cette vidéo a été montrée dans des contextes féministes, dans des rencontres notamment à la mutualité, et c'était des images qui étaient extrêmement fortes, dont on n'avait évidemment aucune trace par ailleurs. Donc c'est une démarche aussi de contre-information.
De contre-information ou de sensibilisation, est-ce que vous diriez que ce sont des images qui sont utilisées de manière contemporaine pour aussi témoigner de choses qui se passent et qui ne sont ni sues ni dites?
Oui, il y a de ça évidemment aussi. Quand je disais que cette vidéo avait été montrée dans des réunions notamment féministes à la mutualité, c'était aussi justement pour préciser en quoi consistait cette fameuse méthode par aspiration Karman dont on entendait parler, qu'on disait justement non douloureuse, qui nécessitait pas évidemment d'être anesthésié, etc., mais qui, surtout dans un contexte d'illégalité, permettait que l'avortement soit malgré tout pratiqué en contexte sécurisé et entre femmes, etc.
Tu pourrais peut-être essayer de me caresser, c'est vraiment dur.
Tu peux pas comprendre.
Il n'y a pas d'érotisme entre nous.
Mais si.
S'il y avait de l'érotisme... Tu aurais même pas l'idée de me pénétrer. Du sexe, on pourrait peut-être passer au corps.
Mais mon corps, tu le brimes. Parce que tu m'obliges à calculer le moindre de mes mouvements. Tu m'excitais ? Alors, bien sûr, mon zizi tenait de la place. Mais j'étais obligé d'employer des ruses pour pas me le faire coincer entre nous deux. C'est aussi bête que ça. J'ai l'impression d'être un martyr. Pendant des milliers d'années, les femmes ont accepté un rapport normal. Et puis tout d'un coup, paf, c'est fini. Et voient le sexe ailleurs. Et moi, j'arrive au monde juste à ce moment-là. C'est trop injuste. Je n'ai pas pu profiter de ces milliers d'années où des milliards d'autres hommes ont eu des rapports normaux. C'est comme si la vie se moquait de moi. Je suis la première victime.
Je trouve qu'il y a tout dans ce troisième film que vous choisissez, Hélène Flékinger. Il y a de la tendresse, il y a de l'humour, il y a vraiment une sorte de déclaration dont on ne sait pas exactement quel est le degré d'humour, mais on peut quand même imaginer, vu le degré d'humour et d'intelligence de Luc Moulet, qui co-réalise ce film, qu'il est assez grand. C'est un film qui date de 1975, qu'il réalise avec Antonietta Pizzorno, et qui s'appelle Anatomie d'un rapport. On a commencé par un film tourné par des hommes, puis un film complètement tourné par des femmes de l'intérieur, et là on passe à un film tourné par un couple. Quelle est la spécificité de ce film-là ?
Oh là là, il est vraiment très très à part. Totalement original. C'est en quelque sorte une fiction documentée aussi. C'est-à-dire que là, il y a même un mélange, je dirais, des genres cinématographiques, puisque là, on revient à des techniques argentiques. C'est un film qui a été vraiment coécrit par Luc Moulet et Antonietta Pizzorno, donc effectivement, sa compagne dans la vie. Et quand j'ai pu discuter notamment avec Antonietta du contexte de fabrication du film, il se trouve qu'en quelque sorte, ce film est vraiment le produit de véritables échanges et d'une vraie discussion assez féroce entre eux, qui a donc duré plusieurs mois et qui a donné lieu à ce film. Après, c'est pas Antonietta qui interprète son propre rôle à l'image, mais en revanche, c'est bien Luc Moulet que l'on entend. Et là, évidemment, ce qu'on comprend, c'est comment finalement le mouvement de libération des femmes et ses revendications, ses interrogations viennent troubler jusque dans la vie quotidienne, dans la vie sexuelle évidemment la plus intime des couples, en l'occurrence hétérosexuels, et comment finalement ils s'en trouvent bouleversés et totalement potentiellement reconfigurés. Mais ce qui est très touchant finalement dans le personnage de Luc Moulet, qui par ailleurs a un esprit de dérision, de recul extrêmement, enfin qui est très très fin et très drôle, c'est qu'en même temps il fait des efforts, il essaie de se déplacer, mais il en revient toujours d'une certaine manière à l'endroit d'où il parle finalement, c'est-à-dire qu'il est quand même un homme à un moment donné qui s'est construit comme tel, socioculturellement, et qui a du mal évidemment à se déplacer, mais qui essaie avec tendresse de le faire.
D'ailleurs, il n'y a pas que lui dont il dit qu'il doit être déplacé, il y a ce qu'il considère comme étant les normes. Dans ce dernier trait d'humour où il dit « je suis la victime » et vraiment ça tombe sur moi alors que franchement j'aurais bien aimé naître avant, où des milliers de femmes, des milliards de femmes, des milliards d'hommes ont vécu des rapports normaux. Ce qui se joue là aussi dans ce journal intime en fait cinématographique, c'est la manière dont cette idée de rapport sexuel normal, de l'érotisme évident qui serait l'évidence de la pénétration, que bouscule par exemple cette femme en disant si c'était vraiment érotique, peut-être que t'aurais pas spécialement envie de me pénétrer. C'est ça aussi qui bouge et c'est assez étonnant et détonnant de le mettre en scène de cette manière-là.
Oui, tout à fait. Et en plus, finalement, c'est dans la bouche même de Luc Moulet, donc de l'homme dans le couple, que les choses sont dites. Et finalement, en creux, c'est une vraie contestation assez acerbe qui émane de sa propre parole, quoi.
On parlait de la circulation de ces films. Ce film-là, il a beaucoup circulé ?
Alors lui, il est sorti en salle, parce qu'effectivement, tous les films dont on va écouter des extraits ne sont pas sortis en salle. Les films vraiment, entre guillemets, militant directement, émanant directement des luttes et ancré dans ces luttes, les accompagnant, et surtout quand ils ont été tournés en vidéo, eux n'étaient pas montrés en salle, puisque à l'époque, il n'y avait de toute façon même pas de vidéoprojecteur, et donc c'était montré sur des petits moniteurs de télévision. En revanche, Anatomie d'un rapport, c'est vraiment un film qui, même si la production n'est pas à gros budget, on peut s'en douter, c'est rudimentaire en termes de moyens, mais c'est bien sorti en salle, en l'occurrence en septembre 1976. Alors là, j'ai pas les chiffres, en l'occurrence du nombre de spectateurs qui l'ont vu, mais il est sorti en salle, donc oui, il a été quand même vu. C'est sûr que sa circulation n'est pas du même ordre que les films militants tournés en vidéo féministes de l'intérieur.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez étonnée, en tout cas que vous trouviez très, très moderne, très libre, les propos sur la sexualité et le corps des femmes dans les films précédents, 1971. On peut considérer que la conversation, d'ailleurs il me semble qu'ils sont dans leur lit à moitié nus en train d'avoir cette conversation-là, très libre aussi sur ce qu'est la sexualité, le rapport entre le corps des hommes et le corps des femmes, le désir des uns, le désir des autres. Est-ce qu'on pourrait, exactement 40 ans plus tard, 76-2016, imaginer aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de films qui portent ce discours-là aussi librement ?
Il me semble que non. La conjoncture a singulièrement changé, assurément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas évidemment des productions qui présentent évidemment les rapports, notamment entre hommes et femmes, de manière relativement égalitaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la production, je dirais, la plus engagée en termes féministes, elle se situe encore davantage du côté du cinéma documentaire. Et donc, je pense là aux programmations, notamment du Festival Femmes en Résistance, qui a lieu toujours la troisième semaine, troisième week-end du mois de septembre depuis plus de 10 ans. Là, on voit qu'il y a une production très très intéressante, mais surtout documentaire. C'est vrai qu'en termes de fiction, c'est beaucoup plus rare.
Et ça se situe, alors, si on revient juste, on fait un tout petit détour du côté de la production contemporaine, c'est plutôt, ce sont plutôt des films d'hommes, plutôt des films de femmes fait à l'intérieur avec des femmes et des logiques de non-mixité, ou plutôt des films où vraiment la logique du couple et de l'hétérogénéité, pas forcément d'hétérosexualité, mais en tout cas de la rencontre entre les genres se joue.
Il me semble qu'il y a surtout effectivement un certain nombre quand même de femmes cinéastes. Je pense à des personnes à une cinéaste comme Céline Sciamma, qui évidemment a proposé un certain nombre de films qui sont eux véritablement dans une posture on peut voir une filiation, mais en même temps, là encore, la conjoncture, en particulier politique, a tellement changé que c'est difficile de plaquer, entre guillemets, ces analyses. Mais il me semble, en tout cas, que la question de la mixité ou de la non-mixité ne se pose pas du tout, évidemment, de la même manière. Dans les années 70, ça a été un moment important de reprise en main des femmes, de leur propre parole entre elles. Et au niveau du cinéma, et en particulier donc de la vidéo, c'était très, très clair. Aujourd'hui, évidemment, il y a des temps de mixité dans les mouvements militants qui peuvent et doivent probablement être préservés, mais au niveau du cinéma, ça ne se joue pas de la même manière.
Si notre sexe est lieu de plaisir, d'amour et d'enfant, comment le vivre ?
Comment vivre notre sexe ?
Si on se montre nu dans ce film, ce n'est pas pour se faire voir.
Ce n'est pas pour qu'il se rince l'œil.
C'est qu'on veut affirmer nos désirs.
Volupté, mais pas voyeurisme.
Sexualité, mais pas sex shop.
Amour, mais pas chantage.
C'est qu'on est dans une énorme contradiction
quand on est dans un corps de femme.
Drôle de contradiction. D'un côté, on nous dit « cache-toi, planque ton sexe ». De l'autre côté, on nous dit « exhibe-toi, tu plais, tu fais vendre ». Faudrait s'entendre.
Eh oui. D'un côté, on nous dit « sois pudique, montre pas ton cul ».
Avec les garçons, on fait pipi plus bien que les autres. Nous, on nous dit tout le temps « nous cacher ». J'en ai marre.
Maintenant, ça va changer.
Moi, j'ai vraiment pas honte de mon sexe, j'en ai jamais eu honte. Et à la limite, j'aimerais plus cacher mon nez qui pèle en ce moment que mon sexe qui est caché.
J'ai pas honte de mon sexe du tout. Au contraire, j'ai pas l'impression du tout, contrairement à ce que la société essaye de m'inculquer depuis que je suis née, qu'il me manque quelque chose entre les jambes. Je suis très contente de ce que je suis.
J'ai eu beaucoup d'ennuis avec mon sexe, mais enfin, je suis pas mécontente. Je suis contente d'être une femme.
J'ai absolument pas honte de mon sexe et quand j'aurai des filles surtout, j'essaierai de leur enlever tous ces tabous, ces préjugés sociaux absolument aberrants pour qu'elles soient complètement libérées et qu'elles n'aient pas de problème.
Eh oui, de l'autre côté on nous dit « montre tes jambes, tu plais au consommateur ». Je n'aime pas qu'on utilise mon corps et puis qu'on l'étale comme ça.
Je n'aime pas qu'on l'exploite pour faire marcher le commerce.
C'est une plus belle fille que moi, mais c'est tout de même moi qu'on utilise pour vendre un truc.
Alors, chaque fois que je vois une affiche collée au mur, je trouve que c'est absurde de voir toujours les femmes nues, tout le temps. Alors, je me dis, eh bien, alors c'est moi qu'on affiche.
Chaque fois qu'on déshabille une femme pour vendre un produit,
C'est moi que l'on déshabille.
C'est moi que l'on étale.
C'est moi que l'on méprise.
C'est moi que l'on désire.
C'est moi que l'on critique.
C'est moi que l'on achète.
C'est moi que l'on commande par téléphone.
C'est moi que l'on paye, par chèque ou en espèces.
C'est moi que l'on offre en pâture aux désirs des hommes.
Continue comme ça, plains-toi. Bientôt, tu cesseras de nous plaire. La tête que tu feras si aucun homme ne te désire.
Moi, j'ai assez d'amour en moi pour que tu me désires sans que je me déguise en réclame.
Au risque de vous déplaire et de rompre avec certains d'entre vous,
messieurs les pères, les maris, les amants, les patrons, les mecs et les copains,
nous les femmes, on a pris en main notre évolution.
Et si vous avez encore besoin de femmes et d'amour,
c'est vous qui allez être obligés de changer vos habitudes et quelques-uns de vos goûts.
Je suis une femme. Il faut réinventer la femme.
Alors, il faut réinventer l'amour.
D'accord.
Bon, alors à suivre.
Bon, alors à suivre, dit doucement Agnès Varda dans un ciné-tract doux mais décidé. On est en 1975, Hélène Flequinger, c'est le quatrième choix de cette carte blanche cinéma autour du corps des femmes. Ici, à l'écran, le corps est tantôt habillé, tantôt complètement dénudé, tantôt âgé, tantôt jeune, tantôt complètement enfant. On a entendu la voix d'une fillette. Pourquoi est-ce que c'est une autre, peut-être une autre vision ou encore un autre aspect de ce cinéma que vous explorez des années 70 pour nous cet après-midi?
Alors avec Agnès Varda et en particulier ce ciné-tract, on est dans une découverte, je dirais cette fois, du corps des femmes, presque physiquement de l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que disait Agnès Varda à propos de ce ciné-tract. Elle disait qu'elle voulait parler du corps, mais vraiment en le montrant. Et d'ailleurs, elle a montré notamment un sexe de femme qui a été un plan, en l'occurrence, censuré par la télévision, puisque ce ciné-tract a été réalisé et diffusé pour la télévision.
Parce que c'était une commande, hein, c'était voilà. C'était appelé comme étant l'année de la femme. Ils avaient demandé à cette réalisatrice de produire un film et à cette commande-là, Agnès Varda avait répondu par ce tract qui fait à peu près 7 minutes 30 ou 7 minutes 40. On a diffusé un extrait et c'est sa manière de répondre, notre corps, notre sexe.
Et ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est la manière dont elle met en évidence la contradiction ou l'ambivalence dans laquelle se retrouvent les femmes entre deux choix contradictoires et paradoxaux. C'est-à-dire que d'une part, on va demander finalement aux femmes de se cacher, d'être pudiques, le cas échéant de se voiler, de ne pas parler surtout de sexe et de leur sexe, surtout pas non plus de leur désir physique, d'être surtout mère, maîtresse de maison, donc le côté travail ménager, épouse, etc. Et de l'autre côté, on va demander aux mêmes femmes, finalement, de montrer leurs jambes pour vendre des collants comme dit Agnès Varda, ou bien de montrer ses épaules pour vendre des parfums, etc. ou pour vendre des voitures. Et c'est ce qu'on voit aussi très bien dans ce ciné-tract. C'est une dénonciation aussi en creux, notamment des images publicitaires qui enferment les femmes. Et avec Agnès Varda, donc, la question d'être femme s'incarne vraiment dans celle du corps, qu'il s'agit là encore de se réapproprier sous ses multiples dimensions. Donc aussi la question du désir est centrale, évidemment, chez elle.
Est-ce que c'est novateur le fait justement qu'elle se réfère, elle au pluriel, se réfère à la question de la publicité, de la consommation? Dans votre tout premier choix, il était question de cette femme du MLF qui discute avec une femme pas encore convaincue, ou peut-être qu'il ne le sera jamais, et elle dit « mais tu te rends bien compte, on est ou des pondeuses ou des consommatrices ». Là, on entend des femmes qui disent « quand je vois cette affiche, c'est mon corps qu'on vend, c'est moi qu'on vend, c'est une partie de moi qu'on vend ». Est-ce que c'est un propos qui émerge à ce moment-là, cette critique de la consommation et de la publicité?
Oui, tout à fait. Alors, il y a évidemment des articles écrits, notamment dans la presse féministe, dans un journal qui est le menstruel, c'était dit ainsi, dit journal du mouvement de libération des femmes. Mais il y a aussi beaucoup de critiques au sein de ces films, justement, féministes, réalisés par des femmes qui sont impliquées dans le MLF. Effectivement, ça se formule vraiment à cette période. Il y a un travail de critique des images qui est mené en images et en son, et dans le ciné-tract d'Agnès Varda, puisqu'il y a un certain nombre d'images de publicité qui sont montrées. On peut donner un exemple qui est assez flagrant, et quand on regarde les publicités des années 70, on est horrifié, effectivement. Déjà aujourd'hui, c'est pas brillant, mais alors quand on voit les publicités des années 70, c'est encore pire. Il y a par exemple une image où on voit une femme nue devant effectivement une voiture, et puis écrit en gros « Soyez dur, j'aime ». Donc d'une violence évidemment extrême, c'est une agression, et on est dans une période où aussi on va voir émerger les campagnes de lutte contre le viol et pour la reconnaissance du viol comme crime, puisque ça c'est une loi par ailleurs qui est entre guillemets récente, qui date du début des années 80, de 80 précisément la première mouture.
Dans ce ciné-tract, on entend la voix d'une toute petite fille qui dit « Nous, on nous demande tout le temps de nous cacher pour faire pipi, alors que les garçons, non, il y en a marre. » En tout cas, dans les quatre extraits que vous avez choisis, c'est la première fois qu'on voit émerger la voix d'une enfant. Dans ce ciné-tract, il y a une personne plus âgée qui dit « Quand j'aurai une fille, je lui enseignerai les choses de cette manière-là, je lui transmettrai cette liberté-là. » La présence de la voix des fillettes, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans ce cinéma-là ou extrêmement rare ?
Plutôt rare. Plutôt rare, même si la question de l'éducation, on peut la retrouver dans quelques films. Mais oui, c'est vraiment, vraiment rare.
Donc c'est assez audacieux que Varda aille jusqu'à faire parler une enfant, en fait.
Tout à fait. Mais dans le cinéma de Varda, qui quand même est plus âgé, faut le dire, hein, que les jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans, surtout
à ce moment-là,
voilà, au moment où émerge le mouvement de libération des femmes, elle est d'une génération quasiment antérieure. Et Agnès Varda a un cinéma qui est très marqué par des enjeux justement générationnels. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les fillettes, mais il y a aussi, vous le disiez tout à l'heure, des femmes plus âgées, le corps de femmes plus âgées que l'on voit. Et il y a une femme à un moment qui dit « on ne nous laisse pas le droit de vieillir ». Et donc c'est très très fort aussi sur ces questions d'âge et de génération.
Et maintenant on va vous chanter une autre chanson qui s'appelle « La femme bulle ». Quand on la chante, on s'attache toujours à un faux ventre. Sauf celui-là qui est un vrai. Parce que quand on a un gros ventre, ça provoque bien sûr des réactions.
Ah, que c'est bon d'être une bulle. Ah, que c'est beau d'être un ballon. Un atelier de molécules, un bel ovule, une fabrique de cellules.
Tu comprends, c'est ambigu ta chanson. Tu pourrais aussi la chanter au mouvement Laissez-les vivre. Et à la limite, tu donnes mauvaise conscience aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants.
J'ai pas dit qu'il fallait avoir des enfants. J'ai dit que quand on est enceinte, il faut essayer de ressentir les choses soi-même et pas écouter l'État ou l'Église ou les allocations familiales. Moi, je veux exprimer ce que je ressens à travers des images de femmes et les dire et les chanter.
Ah, que c'est bon d'être un gros rêve. C'est beau d'être un ballon, un arbre vert rempli de sel, un pain qui lève, un gâteau de rêve et sa fête, une moisson.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
Hélène Fleckinger, c'est le cinquième extrait que vous choisissez dans le cadre de cette carte blanche cinématographique consacrée au corps des femmes. Et on retrouve Agnès Varda. Deux ans plus tard, c'est un film qui sort en 1977. L'une chante, l'autre pas. Pourquoi ce choix-là ?
Alors là encore, la patte, si j'ose dire, de Varda, là c'est un véritable hymne pour les femmes qui se distingue par un certain nombre de points et de choix tout à fait majeurs et donc très originaux. C'est un film qui retrace et reflète donc les luttes féministes pour la réappropriation de leur corps donc par les femmes, mais à travers la question donc du libre choix de la maternité et à travers le récit de l'amitié entre deux femmes, qui est quelque chose de très rare au cinéma, encore aujourd'hui. Donc l'amitié entre Pomme et Suzanne, une amitié qui est racontée sur 14 ans, de 1962 à 1976, qui est la date de production du film. Donc il y a une ellipse temporelle, donc c'est sur fond de mouvement féministe. Ça articule histoire personnelle et collective, ça mélange fiction et événements réels qui sont reconstitués, notamment le procès de Bobigny en 1972, qui est une étape majeure pour l'obtention de la loi autorisant l'IVG. Et puis, le choix de Varda de ne surtout pas avoir une approche victimisante. On est dans c'est un film qui prend le contre-pied de la plainte, et c'est vraiment la vitalité, la force des femmes, hein, et la force collective des femmes qui est mise en avant. Ça, c'est des choix tout à fait personnels. C'est un film musical aussi, ça c'est quand même rare. Finalement, c'est un mélo féministe, comme le dit Agnès Varda, elle l'expliquait bien à l'époque, et c'est par les chansons finalement, tout en douceur, que les enjeux militants passent. Et c'est vraiment aussi à travers ce film, en l'occurrence là c'est la question de la maternité dans cet extrait qui est en jeu, c'est vraiment les choix personnels des femmes qui sont interrogées ou qui sont défendues. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'être obligatoirement mère, mais il ne s'agit pas non plus, si on souhaite l'être, évidemment, de ne pas l'être. Autrement dit, on est finalement dans une forme de configuration du slogan qui était employé par... le planning familial à l'époque, donc c'est un enfant si je veux, quand je veux. Donc libre choix, y compris de la maternité.
Et ce que permet d'ailleurs l'intimité, la proximité de ces deux femmes dans le cadre de l'amitié que met en scène Agnès Varda, c'est précisément cette prise de parole intime, singulière, et avec le jeu. Et d'ailleurs avec des dissensions possibles, on l'écoute d'abord chanter cette chanson... Voilà, elle est très tendre, c'est vraiment génial d'être une boule, d'être un ballon, d'être enceinte. Et elle est arrêtée par son amie en disant « Bah oui, mais tu te rends compte, ce que tu dis, ça peut prêter à confusion, ça peut mettre les autres mal à l'aise. » Donc on sent aussi qu'il y a de l'espace pour la discussion dans ce moment-là, que ce n'est pas que du slogan précisément.
Tout à fait, le cinéma d'Agnès Varda est un cinéma qui est travaillé par les contradictions, qui ne les gomme pas, qui répond tout en douceur aux critiques possibles. C'est un film extrêmement fin. Il est sorti en salle, évidemment, là lui pour le coup aussi a une production classique, même si les moyens étaient là encore réduits, et il a même été montré à la télévision.
Est-ce qu'il faut comprendre dans cette douceur et aussi cette liberté, le fait qu'elle fasse un film musical, encore une fois, peut-être l'avantage de l'âge qu'elle a à ce moment-là, le fait qu'elle se donne la liberté d'être dans ce ton, dans ces formes, aussi cinématographiquement parlant?
Oui, tout à fait. Agnès Varda a un vécu antérieur, d'ailleurs, en termes de féminisme. Elle a été engagée bien avant, finalement, l'émergence du mouvement de libération des femmes, puisque elle raconte une anecdote, c'est-à-dire qu'elle a même été voir, dans les années 50, Jeannette Vermeersch, donc femme de Thorez, du Parti communiste français, en défendant l'avortement, avec toute une délégation où il y avait aussi Colette Audry. Et donc, elle, c'est une féministe de terrain, comme elle le dit elle-même, non pas une discuteuse, c'est sa formule, mais c'est quelqu'un qui, finalement, se sent femme et engagée sur ces terrains-là depuis très très longtemps. Ça la structure, finalement, bien avant l'émergence du mouvement de libération des femmes, qu'elle va rejoindre.
Mais bon. Son calme dans la création, ça ne veut pas dire pas sa revendication, mais son calme, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
Accoucher ainsi, c'est rechercher un autre rapport à son corps, à la vie, aux autres. Mais il a d'abord fallu regarder, caresser nos corps interdits, partager nos connaissances et nos critiques de la contraception, pratiquer collectivement l'avortement pour enfin choisir nos maternités et commencer à décider de nos vies, reprendre nos corps voilés, violés, volés. Ça a été notre première parole, notre première lutte collective. Et encore, ça ne touche vraiment que les femmes qui ont l'indépendance matérielle des pays riches. Si les hommes parlent de changement politique, sans parler du bonheur possible qu'ils soutiennent, eh bien nous on refuse d'occulter ce bonheur et de taire ce désir d'une vie, mais aussi d'une sensualité, d'une sexualité différente qui habite nos luttes. Certes, à travers nos recherches et nos hésitations, on s'est parfois laissé piéger dans le mythe viril de cette libération sexuelle, consommation vide et compensatoire d'un autre sexe, ou encore dans les normes imposées par les sexologues. Mais on essaie maintenant de vivre une sexualité globale, unifiée, amoureuse de soi et des autres. On ne veut plus de colonialisme sexuel. Comme le disait d'ailleurs une Espagnole à Rome, mais pourquoi parler autant de contraception alors que la très grande majorité des femmes n'ont pas d'orgasme par la pénétration?
Mais qu'est-ce que c'est l'orgasme?
Je pense que l'orgasme peut être ressenti dans tout le corps, mais il se centralise dans un endroit précis, c'est le clitoris.
Mais peu importe que ça vienne d'abord par l'imagination et que tu appelles ça l'orgasme, qu'on touche un sein et que tu appelles ça l'orgasme, ou que ce soit au niveau du vagin, mais le centre du plaisir, c'est le clitoris.
danse élégante Molly. Chaque le tente, il épie. De son vide, il salive. Elle sera sienne, c'est dit. D'où il s'élance à Molly. Jacques lui dit la nuit. J'ai peur dans mon lit. Prête-moi ton lit. Danse élégante. Danse en transe. Silence m'avait dit, Jacques arrive et prie, toute nue endormie, de mon rêve j'aurais fui, mais dans ce silence maudit, Jacques a pris sa nuit, elle n'est plus dans son lit. Qu'une jolie molly
sans fil. Juste avant cette chanson, on entendait un extrait de À notre santé, 1977, un film collectif, Dominique Barbier, Josiane Jouet et Louise Van Lax, votre dernier choix, Hélène Fleckinger. Peut-être c'est un choix qui, d'une certaine manière, englobe un peu tous les autres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est exactement ça, puisque c'est d'ailleurs l'extrait d'une vidéo qui porte donc sur l'autosanté, qui est exactement l'acte féministe ou la pratique féministe de reprise en main globale de son corps, de leur corps, par les femmes. Et évidemment, pour nous, c'est aussi à l'image de la question de la reprise en main des caméras. C'est à notre santé, mais aussi à nos caméras. Prenons nos caméras pour nous auto-représenter. Je trouve que c'est aussi une image de ça qu'on voit en creux. Mais là, dans cette vidéo, le lien est refait entre avortement, contraception, mais aussi accouchement. La question des examens gynécologiques que prenait le self-help, la socialisation des connaissances, le fait de partager tout cela ensemble, et là, en l'occurrence, en non-mixité. D'ailleurs, cette vidéo a été montrée dans des contextes non-mixtes. C'était issu d'une rencontre des centres de santé pour les femmes à Rome en juin 1977. Et on retrouve aussi en creux l'enjeu international, puisque là, on est parti d'un corpus finalement essentiellement, même strictement français. Et là, il se trouve que c'était tournée avec de très nombreuses femmes issues de très nombreux pays, et que ce mouvement de libération des femmes était évidemment un mouvement général.
Ce qui nous permet aussi, à la fois c'est un extrait de film que vous choisissez en dernier, qui englobe d'une certaine manière les autres, ça nous permet aussi de faire la boucle avec notre émission de lundi, où il était question du caractère fondamental du partage et de la transmission de connaissances d'abord entre les femmes, par une connaissance empirique, pour ensuite avoir la puissance, l'énergie, le désir de porter cette connaissance à l'extérieur, vers le public, vers les hommes, vers d'autres femmes, ou même dans d'autres pays. Le fait que ce soit un film collectif et international, en 1977, ça joue justement dans cette sorte de dynamique de, je trouve pas la traduction pour empowerment, mais quelque chose de d'autodétermination, d'auto...
Oui, on est dans un acte d'expression et de création collective, et c'est absolument essentiel pour les féministes dans cette période-là, c'est-à-dire que l'acte de faire des images et l'acte d'être ensemble se rejoignent. Et donc, pour transformer la société, il s'agit finalement, d'un point de vue féministe, de rendre évident et de mettre en pratique cette question du personnel qui est politique, et de travailler sur le lien entre, justement, individuel et collectif, constamment à tous les niveaux, donc en termes de création là, vidéo, mais aussi en termes tout simplement de pratique. Et il n'y a plus de frontières entre pratique, théorie. On est dans la praxis féministe constamment.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Rigeau.
Il est 14h49 sur France Culture. Depuis lundi, nous écoutons Diane Leriche qui se sent femme depuis la plus tendre enfance, mais il lui a fallu attendre l'âge de 42 ans pour débuter un traitement hormonal et faire progressivement correspondre son identité de genre avec son propre corps. Pour terminer, elle nous parle aujourd'hui d'intimité et de sexualité.
Dans le sac de l'intimité, il y a eu des liens dénoués par rapport à mon épouse qui est simplement hétérosexuelle. Donc elle aime toujours mon esprit, mon cœur, mais le corps, elle a un peu de mal. Et moi, j'ai vécu au fur et à mesure, j'ai toujours été attiré par les femmes. J'ai tenté avec des hommes au niveau de l'intimité, mais c'est franchement pas ça, je ne m'y retrouvais pas. C'est pas possible, je peux pas. Je suis une personne romantique au fond de moi et je ne peux pas avoir une sexualité juste pour de la sexualité. Et j'ai eu la chance après de rencontrer des femmes, pas beaucoup, où là, la connivence était totale. Quand on est en amour, il n'y a plus de préjugés, il y a du lâcher prise. On se laisse porter, on se porte mutuellement, on s'échange, on se caresse, on se regarde, on se sourit, on s'embrasse. Et on s'aime.
Ça signifie que vous avez aussi trouvé une adéquation dans une sexualité qui était là, dans un désir qui était là. C'est-à-dire, non seulement vous étiez attiré par les femmes depuis toujours, mais vous étiez aussi attiré par ce que vous projetiez comme la sensualité entre les femmes. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être attiré par les femmes et de vivre dans un corps d'homme que d'être attiré par des femmes et de vivre dans un corps de femme. Donc il y a aussi eu cette nouvelle adéquation.
Tout à fait, c'est-à-dire que j'étais attiré par des femmes. Quand j'étais dans un corps d'homme, j'aimais ma femme. Et comme je n'avais pas vraiment de plaisir masculin, mon plaisir c'était de donner du plaisir. Je donnais, je ne recevais pas forcément, je ne recevais pas ce que je voulais. Et maintenant, voilà, l'ustensile que j'avais, qui servait, qui avait une utilité, qui n'a plus aucune utilité, actuellement, il est encore là. Je veux m'en débarrasser. C'est pas évident parce que voilà, ça coûte énormément. Mais je m'en sers pas et ça passe très bien parce qu'il y a tout le reste du corps. La sexualité se résume pas à un organe. La sexualité se résume au corps, à l'esprit et au cœur. Et la manière d'avoir une sexualité, une sensualité entre femmes complètement différente. C'est surtout les interactions qui sont différentes. Ça peut être hyper doux, comme ça peut être hyper violent, mais dans le sens violent sans agressivité, c'est pas un problème, parce qu'on sait qu'il n'y a pas les arrière-pensées, le mécanisme est complètement différent. Entre femmes, on ne fait pas la même chose. Voilà. Je peux comparer justement entre mon corps masculin et mon corps féminin.
Vous avez la sensation que que la transformation, que votre adéquation sera plus complète si un jour vous n'avez plus de pénis?
Oui, tout à fait, parce que j'ai parlé un peu crûment, mais moi j'aime les vagins et j'aime pas le pénis sur moi. Enfin, c'est pas un pénis, c'est un organe génital. D'ailleurs, je dis pas un pénis, c'est un organe génital, c'est un truc, c'est un bidule, c'est un machin, voilà. C'est...
Qui vous encombre plus qu'autre chose, quoi.
Mais qui m'encombre complètement, qui est là, qui me gêne plus qu'autre chose. Et c'est un peu compliqué pour moi pour me faire opérer, parce que je suis femme de 50 ans. J'ai deux enfants, je suis lesbienne, et dans les équipes autoproclamées officielles hospitalières sur Paris, on ne m'accepte pas, parce qu'il faut rentrer dans des cases. Il faut être non pas une personne transgenre, mais une personne transsexuelle, aimer les hommes, pas avoir eu d'enfants, etc. etc. Donc, heureusement, il y a d'autres équipes hospitalières en France qui acceptent, qui comprennent, qui sont plus dans l'accompagnement et pas dans le jugement. Sinon, après, c'est les solutions à l'étranger, mais ça coûte très 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 cher, et quand on est une personne trans, on est précarisé, donc on n'a pas les moyens. Donc pour l'instant je fais avec
et ou sans,
voilà, je fais avec dessus mais sans m'en servir, c'est-à-dire que c'est un truc qui est là, donc je préviens toujours. C'est des choses qui sont assez marrantes, cocasses, parce que voilà, c'est voilà. Et mais après c'est pas forcément évident à trouver une femme lesbienne qui va accepter qu'il y ait un ustensile phallique sur le corps de sa partenaire et que cet ustensile, on ne s'en serve pas. Parce qu'il y a des femmes lesbiennes qui vont dire « on pourrait peut-être s'en servir ». Là, je dis « non ». Et là, va des rétro-satanas, je dis oui, mais il n'est pas là. Donc souvent, il y a besoin de beaucoup plus de discussions, d'échanges. Puis en général, les personnes me comprennent par rapport aux discussions, par rapport au comportement, par rapport à qui je suis intimement. Et souvent, ça devient qu'un détail. Ce n'est pas un détail pour moi, mais pour ma partenaire, c'est souvent un détail.
Waiting on a day. Hope you come see me soon, 'cause I don't wanna go alone. I don't wanna go alone. Now, angel, won't you come by me? Angel, hear my plea. Take my hand, lift me up so that I can fly with thee, so that I can fly with thee. And I'm waiting. Just might be an angel come, oh, knocking at your door, come knocking at your door.
Je suis sûre que Véronique Villa s'est dit que vous n'aviez pas écouté Ben Harper depuis trop longtemps et qu'il fallait raviver en vous les flammes des feux de camp de votre jeunesse. C'est pourquoi nous terminons cette semaine avec Waiting for an Angel. Un très grand merci, Hélène Fleckinger, d'avoir signé pour nous cette carte blanche cinématographique. C'était passionnant. On peut retrouver en DVD la plupart des films qu'on a cités. Pour ceux qu'on ne retrouve pas en DVD, on peut les retrouver où ?
Eh bien, très bientôt, à partir de la semaine prochaine, sur une plateforme évolutive de films et de ressources numériques qui s'appelle Bobine Féministe, sur laquelle vous pourrez trouver non seulement des films, mais aussi donc des extraits de films, des extraits d'entretiens et d'autres documents d'archives des années MLF, des années 70, des photographies, des affiches, des tracts, des journaux, etc. Donc Bobine Féministe, ce sera très bientôt disponible en ligne.
Très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et puis je signale les rencontres du cinéma documentaire à Montreuil en ce moment. Elles se terminent le 16 octobre. Et puis on peut noter le beau et long documentaire de Patrick Jean, Conversation avec Françoise Héritier. Leur thème cette année, c'est féminin-masculin. Et c'est projeté aujourd'hui à 16h. Vous avez quelques 1h et 2 minutes pour y courir. C'est 235 minutes de conversation avec Françoise Héritier. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut continuer à échanger sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et franceculture.fr. Évidemment, on vous remercie chaleureusement pour vos messages qui ont été nombreux cette semaine. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous lire et puis on va répondre ce week-end pour ceux à qui on n'a pas encore répondu. Un grand merci à Romain de Bac-de-Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon est toujours à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui. C'était Joël Le Guéhennec. Dans un instant, on retrouve Manu Farine avec la poésie. Moi, je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne. Bon week-end.